Hé Clémence, viens, on part.
T'as déjà fait un podcast, toi?
Non. Et toi?
Non.
Viens, on le fait.
Carnet de voyage.
Dans le dernier épisode, on vous expliquait notre projet et on vous quittait alors que notre avion décollait. Le 7 mars, à 7h, après une escale à Madrid, on est arrivé à Santa Cruz.
En sortant de l'aéroport, on est directement saisi par la chaleur humide qui contraste avec le froid parisien. Et face à la sortie, il y a des bus qui vont dans le centre-ville et on monte dedans.
L'aéroport est au milieu de champs et on voit des avions crasher au loin. Et c'est vraiment drôle comme accueil. Ici, tout est différent. On sent qu'on est ailleurs. On entend de l'espagnol et on se dit, ça y est, on est en Bolivie. C'est fou de se dire qu'on est à 17 heures de la France. On arrive dans la ville. Nos yeux et nos oreilles grandes ouvertes, on observe. Il y a des voitures partout, pas de passage piéton, des bruits, des klaxons, des gens qui parlent, de la musique. C'est le bordel, mais ça fait du bien.
Le premier soir, on retrouve Isaac, un Bolivien qui vit en Allemagne et qui vend des lunettes. C'est Oran qui l'a rencontré à l'aéroport et du coup, il nous a proposé qu'on se revoie le jour même.
Lui, il a pu aller étudier en Europe parce qu'il avait gagné une bourse d'études. Car pour les Boliviens, à moins d'avoir de l'argent, c'est plutôt compliqué de faire ça. Il nous propose de nous retrouver dans un Irish pub, et il faut le dire, c'est pas très typique. Mais bon, on a une super vue sur la place, alors on dit pourquoi pas. On sent que ça fait longtemps qu'il ne vit plus en Bolivie. Il en parle de manière assez détachée, comme s'il était devenu un étranger. Par exemple, il a peur de rentrer à pied tout seul. Il nous conseille de prendre des Uber pour tout. Pourtant, nous, on ne s'est jamais trop senti en danger ici.
Le premier jour où on est arrivé, on est allé dans un restaurant et c'est là qu'on a découvert le moco chinchi.
Moco chinchi.
Le moco chinchi, c'est une boisson typique de la Bolivie qui est faite à base d'eau, de pêche déshydratée, de cannelle et de clou de girofle. Bon, aussi de beaucoup de sucre. On ne le sait pas encore à ce moment-là, mais ça va devenir notre boisson préférée. Ça coûte 2 bolivianos, qui est l'équivalent de 20 centimes.
On a rencontré des plats, on a rencontré une ville, on a aussi rencontré des gens. On rencontre Julio César, en premier. C'est un ancien vétérinaire qui est chauffeur à ses heures perdues. Il nous emmène au jardin botanique et on sent qu'il a envie de parler. Il nous demande si on joue de la musique ou si l'on danse. Pour lui, jouer de la musique, c'est vital. Sans ça, il ne pourrait pas exister. Il nous conseille de danser la cumbia, c'est beaucoup plus facile que la salsa. Clémence, elle est un peu réfractaire, mais lui, il nous conseille. Un petit verre dans le nez et c'est parti. La conversation découle alors sur l'alcool. Sa bière préférée à lui, c'est la Guari. C'est la plus classique de toute la Bolivie, et on comprend pas pourquoi, mais c'est la préférée de tous les Boliviens.
Bolivia está dividida en Coya y Camba, no sé si saben. Santa Cruz somos los Cambas, somos los mestizos.
Au retour, notre chauffeur s'appelle Mauro Silvestre. Il est beaucoup plus timide que Julio César, mais il est tout aussi intéressant. Sa joue, elle est gonflée par une boule de coca qu'il est en train de mâcher. Ici, il y a beaucoup de personnes qui en consomment, et c'est pas du tout perçu comme une drogue. Il nous explique à quel point les disparités et les divisions sont grandes à Santa Cruz, mais aussi en Bolivie. Santa Cruz, en fait, c'est le poumon économique de la Bolivie. Et c'est ce qu'on avait déjà lu avant d'arriver. Il y a une très grande polarisation dans le pays à cause des différences entre les régions. En fait, il y a les régions qui se trouvent plus près de la cordillère des Andes, qui sont les hautes terres, et c'est là où l'agriculture est plutôt traditionnelle, et les personnes qui viennent de ces régions, on les appelle les colas, et elles sont un peu en opposition avec les cambas, qui vivent plutôt dans les basses terres, et c'est là où se trouve Santa Cruz, où on est, et où l'agriculture, en fait, est industrielle et beaucoup plus productive. En tout cas, c'est ce qu'on a compris avec notre discussion avec Mauro Silvestre.
Grâce à ces deux chauffeurs, on en a appris plus sur Santa Cruz. Après l'agitation de la ville, on a eu envie d'aller un peu plus découvrir la campagne. Alors on s'est rendu à Samaipata, un petit village de Bohème que Clémence avait trouvé sur internet. Elle avait vraiment trop envie d'y aller. La route pour arriver est magnifique. On peut apercevoir des jardins, des maisons. On s'arrête, on dépose, on salue les copains, puis on repart. Les trajets en bus, c'est vraiment un moment privilégié pour admirer le paysage qui défile. Moi, personnellement, j'adore mettre mes écouteurs et regarder par la fenêtre.
Bon, moi, pendant le trajet, j'ai pas mal dormi, mais finalement, au bout de 4 heures, on est quand même arrivé au village et c'était vraiment magnifique. C'est un petit village d'artisans, même une ville d'ailleurs, où il y a environ 38 nationalités différentes qui se côtoient. Et c'est un village qui est particulièrement apprécié des touristes, voire peut-être un peu trop. On a le sentiment qu'il a presque été récupéré par les expats. Au centre de la ville, tout est tenu par des expats. Les bars, dans les marchés, il n'y a que des artisans expatriés. Et du coup, c'est seulement quand on s'éloigne un peu du centre qu'on retrouve davantage de Boliviens, et c'est comme s'ils étaient mis en marge, ce qui nous fait un peu bizarre.
On voit bien que les Occidentaux et le modèle occidental en général prennent beaucoup de place. Ils n'ont pas trop l'air de se mélanger avec les Boliviens et ça nous laisse une drôle d'impression. Et en même temps, c'est difficile de leur en vouloir. Parce que moi, à leur place, j'aurais bien eu envie de m'installer dans ce village aussi. C'est un lieu super paisible et très agréable.
Et c'est à l'image de l'hostel où on dort qui est tenu par Maria. Maria, c'est une Belge bolivienne et elle voyage depuis 15 ans. C'est la première fois qu'elle se pose dans un village à Samaipata. Et du coup, c'est là qu'elle a ouvert un hostel.
Elle nous parle de ses arts. Elle travaille le bois et le cuir. On peut retrouver ses œuvres dans son futur magasin qu'elle nous fait visiter. On y retrouve des colliers avec des pierres qui sont enfermées dans du...
macramé.
Du macramé, voilà. On crée une relation particulière avec elle. Elle est de nature très posée, elle répond à nos interrogations et elle est vraiment très ouverte.
Et du coup, quand on lui parle de notre projet, elle nous propose de rencontrer une de ses amies vénézuéliennes qui vit en dehors de Samaipata dans une communauté. Agathe, elle a quitté son travail pour pouvoir s'occuper de son fils et du coup, elle vit seulement des ateliers qu'elle propose. Et nous, on décide de participer à un de ses ateliers. Le principe, c'est assez simple. On doit s'inspirer d'une carte de tarot qu'elle a tirée pour nous. En l'occurrence, nous, elle tire le fou, el loco. Et elle nous explique toute la symbolique en fait, de la carte pour nous accompagner dans le processus de création et de dessin autour de cette carte.
Et du coup, elle essaie de créer une sorte d'ambiance. Donc, elle met de la musique douce, elle nous prépare du maté et elle nous parle de manière très, très passionnée. J'avoue, on a un peu du mal à se lancer. C'est très étrange pour nous, tout ça. Mais allez, on se laisse prendre au jeu. C'est la première fois qu'on arrive à prendre autant de temps pour dessiner depuis qu'on est arrivé. Le résultat n'est pas incroyable, mais c'était un moment de partage très agréable, que ce soit avec Maria ou avec Agathe. Et surtout, on a réussi à peindre nos locas.
Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento.
Samaipata, du coup, la ville où on est, elle se trouve juste à côté du parc d'Amboro. C'est un parc national qui a la croisée de plein de climats différents. Et au sein de celui-ci, on peut retrouver plein de treks. Et donc, nous, on décide de faire celui dans la forêt pour observer les fougères géantes, les gigantes helechos. Et c'est Ignacio, notre guide pour la journée, qui est super calé en botanique, qui va tout nous expliquer sur ces fougères. Et c'est archi intéressant. En gros, c'est des fougères qui produisent énormément, énormément d'oxygène. Elles sont très importantes pour la biodiversité de la région. Et elles sont très, très rares. En fait, on peut les voir qu'en Bolivie et en Nouvelle-Zélande. Et c'est des fougères qui poussent de seulement 1 cm par an. Et donc, du coup, elles peuvent vieillir. Enfin, il y en a des très, très, très vieilles, qui ont près de 900 ans. On en voit qui font plusieurs dizaines de mètres de haut. C'est vraiment impressionnant.
Du coup, Ignacio, il nous parle de la botanique, mais il s'y connaît aussi pas mal en politique. Il nous explique les querelles qui existent autour de ce lieu. Les agriculteurs organisent des brûlis. Les brûlis, c'est une technique qui consiste à mettre le feu au sol pour le rendre plus fertile. Et le problème, c'est que ces feux ne sont pas toujours bien contrôlés. Ils se propagent alors dans tout le parc et représentent un danger pour la biodiversité. Contre ça, le gouvernement ne fait rien et les populations autour non plus. Ignacio déplore par ailleurs cette mentalité commune aux Boliviens, qui consiste à fermer les yeux. Il évoque une passivité générale face à la protection de l'environnement et au parc Amboro.
Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto, la tierra cada minuto. Mi padre fue cultivando la tierra cada minuto.
Le soir, on revoit Ignacio au bar, puisqu'on s'était donné rendez-vous. Et c'est aussi le soir où on va rencontrer trois Bretons qui vont nous emmener dans une boîte de nuit très typique de Samaipata et très typique de la Bolivie, parce qu'il n'y a que des Boliviens. Et à ce moment-là, on ne sait pas encore, mais on va beaucoup revoir ces garçons-là. Et en fait, on arrive déjà à la fin de notre séjour à Samaipata. On a tellement aimé le lieu qu'on avait déjà rallongé de 2-3 nuits. Mais à un moment, il faut qu'on parte, et donc la prochaine étape, c'est Sucré.
C'est notre premier bus de nuit en Bolivie. C'est confortable, mais ça ne sent pas très bon.
On arrive à Sucré à 7h du matin. On petit déjeune avec Mathilde et Owen et le temps file à toute allure. On passe 3-4 heures à parler dans un marché et on s'entend vraiment trop bien. Du coup, on déjeune au Mercado du Sucré et on découvre l'api et le tojori qui sont deux boissons à base de maïs et qui sont consommées au petit déjeuner. Et après ça, personnellement, je n'aurais plus qu'un seul objectif, c'est trouver le meilleur tojori de Bolivie. Parce que celui du marché de Sucré était incroyable et j'en ai pas retrouvé ailleurs. Sucré, c'est une ville qui est très très différente de Santa Cruz, ne serait-ce que du point de vue architectural. En fait, c'est une ancienne ville coloniale et ça se sent, on voit que c'est beaucoup plus riche. Et c'est la capitale constitutionnelle de la Bolivie, tandis que La Paz, c'est la capitale administrative.
Et comme la majorité des villes boliviennes, elle est nichée au cœur des montagnes. Dès qu'on monte un peu, la vue est exceptionnelle. En haut d'une rue, on découvre le MUSEF, musée ethnographique et folklorique de Sucre. On y rencontre les différents peuples indigènes qui vivent ou qui vivaient dans la région, leur manière de jouer de la musique, leur danse traditionnelle et, bien sûr, le carnaval. C'est grave intéressant, on peut même écouter des sons et voir des vidéos. Dans les autres salles, on découvre l'importance des tissages et des tenues traditionnelles. Tous les motifs ont des symboliques très fortes. Les tissages les plus colorés sont ceux faits par les hommes et ceux avec les motifs plus travaillés sont confectionnés par les femmes. On aime trop ce musée et on pourrait vraiment y rester des heures. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait.
Mais pendant notre séjour à Sucre, on a aussi pas mal travaillé sur le premier épisode du podcast, que vous avez déjà dû entendre normalement, et on a préparé toutes nos visites dans les lieux culturels qu'on avait contactés en amont.
Il est 9h, et juste avant de libérer la chambre de l'auberge, on a un appel de prévu avec le directeur du projet culturel de Marzadero. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on ne sait pas que c'est le directeur. On est super stressés, et on ne sait même pas comment il s'appelle, et en plus, on ne parle pas encore bien espagnol. Au final, ça se passe plutôt bien, même si notre espagnol est assez déplorable. Et ils sont super motivés pour nous accueillir, nous aussi, évidemment, on est trop soulagés.
Et en parallèle du travail et de la visite de Sucré, on prépare notre trek de 4 jours à Uyuni. Uyuni, c'est le désert de sel et c'est un des lieux les plus connus de Bolivie, donc il faut un peu anticiper. En gros, le plus simple, c'est d'avoir déjà un groupe. Et en fait, nous, on en avait parlé avec les trois Bretons rencontrés à Samaipata, Sébastien, Éloane et Yann. Et comme on a passé beaucoup de temps avec Mathilde et Owen à Sucré, on leur propose aussi de partir avec nous. On est 7 et on décide de partir tous ensemble.
He venido al desierto para irme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste.
Après une nuit dans un bus où il faisait super froid, on arrive à Tupiza, le point de départ. Partir de Tupiza, ça nous permet d'éviter d'être avec tous les touristes parce qu'en général, les gens partent plutôt de la ville d'Uyuni. On part pour 4 jours et on va être très très proches. Déjà parce qu'on va passer plusieurs dizaines d'heures en voiture ensemble, on va dormir dans des chambres ensemble et surtout on va partager toutes nos galères. Les premiers soirs, on n'a pas de douche, pas d'eau chaude et on a de l'électricité que pendant quelques heures. Mais bon, celle qui va le plus galérer, c'est clairement Oran.
Et ouais, pour la petite anecdote, je tombe malade à cause de l'altitude, entre autres. Heureusement qu'Isaac est là pour me soutenir et m'emmener voir le médecin du village qui, à part m'allonger sur une table et me donner de l'oxygène, ne m'aidera pas beaucoup. Isaac, c'est notre super guide qui désespère d'un jour réussir à être à l'heure avec nous. On est super distraits. En même temps, les paysages sont exceptionnels. On voit plein de montagnes, les déserts du sud Lipez, les lamas, les lagunes colorées, un volcan. Je vomis même devant.
Finalement, après 3 jours de trek, on arrive dans le Salar où on assiste au plus beau coucher de soleil de toute notre vie. Et dernier jour, on arrive enfin dans la ville d'Uyuni. On n'a pas trop envie de se quitter tout de suite parce que toutes nos galères, ça nous a pas mal rapprochés. Du coup, on profite d'une dernière soirée tous ensemble. Le lendemain, nos chemins se séparent. On est un peu triste parce qu'on sait qu'on ne reverra pas Owen et Mathilde qui vont rentrer en France en avril. Et avec les garçons, ils vont tous à La Paz, tandis que nous, on est attendus une semaine plus tard à Cochabamba, donc on peut pas les suivre.
Avant d'aller à Cochabamba, on a un peu de temps et on va à Oruro. Je crois qu'on regrettera assez vite. C'est une ancienne ville minière, très bruyante, super chère et avec peu de choses à faire.
C'est un moment qui est un peu compliqué et dur pour nous parce qu'on a tellement peur de pas assez profiter, mais en même temps, on doit aussi travailler sur notre projet.
On est vraiment trop contents des moments qu'on a partagés pendant une semaine avec les copaines, mais on doit aussi réussir à trouver un équilibre entre le voyage, les rencontres et l'avancée du projet.
Très vite, on se décide à quitter Oruro pour Torotoro, un parc national près de Cochabamba. On y retrouve l'énergie de Samaipata. C'est un petit village perché au cœur des montagnes. On continue d'avancer sur le podcast, on prend le temps de dessiner et c'est trop appréciable d'être dans un endroit qui est aussi calme. Je crois qu'à ce moment-là, on en avait vraiment besoin.
Après ces quelques jours, on prend le Trufi. Le Trufi, c'est un minibus en Bolivie pour aller à Cochabamba où on est attendu. J'ai trop hâte de retrouver Naira, une amie bolivienne qui avait fait son master avec moi à Montpellier. Elle habite elle aussi à Cochabamba.
Baby, this is Cochabamba, baby. Baby, this is Cochabamba, baby.
C'est un peu stressant parce que c'est la première fois qu'on va à la rencontre d'un lieu sur lequel on a travaillé.
On ne sait pas trop à quoi s'attendre.
On ne sait pas comment ils vont nous accueillir.
Est-ce qu'on va pouvoir les aider sur place?
Est-ce qu'on va réussir à communiquer avec eux?
Et est-ce qu'on va oser? Et c'est pour ça qu'on se fait deux journées de randonnée où on fait de la spéléologie et on va se baigner sous les cascades. C'était trop chouette, mais surtout très froid. Tout ça, c'était avec un groupe de jeunes qu'on a rencontrés par hasard et qui sont tous volontaires dans une ONG qui aide les enfants à Cochabamba.